Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Bonjour, c'est Lucie. L'Arène, l'émission d'information locale de Canal B, s'apprête à débuter. Et au sommaire aujourd'hui, l'info du jour, la protection judiciaire de la jeunesse qui recherche des familles d'accueil. Interview, un retour sur la dernière enquête de Splan sur le recul du bocage en Bretagne. Il y aura de la musique, dont une nouveauté. On annoncera une rencontre publique organisée par un collectif intersyndical en lutte contre l'extrême droite. Et puis, recommandation, un documentaire à voir signé Reporter et Off Investigation. Bienvenue dans l'Arène. Tous les jours, l'émission d'information locale, elle commence avec une info que je choisis pour vous dans tout ce qui se raconte dans les médias locaux. Aujourd'hui, on relaie l'appel de la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse, un organe du ministère de la Justice qui développe depuis plusieurs années le placement de jeunes en famille d'accueil. Ce mode de prise en charge, il permettrait d'offrir un contexte de vie familiale stable à des jeunes qui sont donc auteurs de délits, dans l'objectif de les réinsérer socialement et professionnellement. Lundi 25 mars, une campagne a été lancée. Vous avez tout pour devenir famille d'accueil, c'est le slogan. Une façon de communiquer auprès des habitants qui souhaiteraient accompagner un adolescent en difficulté. Femme ou homme, célibataire ou en couple avec ou sans enfant, en activité ou retraité. L'essentiel, c'est de disposer, je cite, de qualité relationnelle, d'écoute, d'autorité et de patience. Dans la famille, le jeune, il dispose d'un espace individuel et privatif, participe au temps de la vie quotidienne. Les journées, elles se déroule généralement à l'extérieur pour ce jeune, que ce soit en formation, en stage ou dans une unité d'activité de jour de la PJJ. La famille d'accueil, elle, assure l'hébergement et le couvert avec un système d'astreinte qui permet d'être soutenu par des professionnels 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, d'abord par téléphone et puis en présentiel si c'est nécessaire. Si vous êtes intéressé par la démarche, les candidatures se déroulent en ligne sur le site lajusticerecrute.fr. Des temps d'échange sont prévus avant la signature d'une convention avec la famille. Celle-ci précise la durée et les modalités d'accueil, qui peut par exemple n'avoir lieu que les week-ends. Et on termine en précisant que les familles d'accueil sont indemnisées à hauteur de 45 euros par jour et par jeune, une somme qui est non imposable. Allez, après cette info du jour, on passe à une interview. Nolwenn Veller, bonjour.
Bonjour.
Je vous présente, vous êtes journaliste et l'une des co-autrices avec Yann Malo-Carbrat de la dernière enquête de Splan, ce média d'investigation indépendant et breton dont on relaie régulièrement le travail dès qu'il y a une enquête qui sort. Bocage, la fin d'un paysage, c'est le sujet exploré cette fois dans une enquête en 5 volets. Et avant de donner envie aux auditeurs d'aller la lire, cette enquête en ligne, on rappelle que vous êtes journaliste indépendante, vous écrivez pour plusieurs titres avec un intérêt particulier, et ça tombe bien, pour l'environnement et les pratiques agricoles. Vous avez déjà beaucoup écrit à ce sujet.
Oui, j'écris depuis une quinzaine d'années sur les questions agricoles pour le site d'information Basta notamment, mais aussi pour le magazine Santé Travail.
Alors l'enquête dont on parle aujourd'hui, elle a été publiée il y a un mois, fin février, à retrouver dans son intégralité sur le site splan.org. Splan, ça s'écrit S-P-L-A-2-N, c'est du breton. Il faut peut-être commencer par expliquer d'où vient l'intérêt pour ce sujet-là et puis ce qu'est le bocage.
Alors pour répondre à ces deux questions, donc le bocage, c'est cet ensemble de haies, talus et chemins creux qui délimite les parcelles agricoles et qui quadrille les paysages. Donc c'est un paysage qui a été largement détruit au moment du remembrement dans les années 60-70. L'objectif, c'était de réorganiser le paysage agricole pour agrandir les parcelles et faciliter le passage des machines, des très grosses machines. Donc il y a des milliers et des milliers de kilomètres de haies qui ont été arrachés pendant cette période-là. Et il y a une BD qui va raconter cette histoire-là, qui sortira à l'automne, qui a été faite par Inès Leroux, que je vous recommande par avance. Et ce que raconte notre enquête, en fait, c'est que cette destruction-là, elle continue. Alors même que le remembrement, il est terminé donc depuis déjà assez longtemps. Et ce qu'on a remarqué, c'est même que finalement, c'est une destruction qui s'accélère depuis 10 ans. Ce qui peut paraître étonnant parce qu'on n'a jamais autant parlé de l'arbre, il n'y a jamais eu autant de textes de loi et de cadres et de très belles déclarations en faveur de l'arbre et de la haie. Mais on estime que depuis une dizaine d'années, c'est 23 000 kilomètres qui disparaissent chaque année en France.
Là où le sujet devient intéressant, c'est que ces haies, elles ne sont pas là que pour faire joli. Elles sont bien utiles d'un point de vue à la fois biodiversité, mais aussi climatique, on le résume comme ça.
Oui, on résume comme ça. Comme je disais au début, au départ, le bocage, c'est vraiment un paysage de limite. C'est pour délimiter les propriétés, pour délimiter les pâtures, des champs de production, etc. Mais c'est vrai que ça fait un linéaire, finalement, d'espace naturel qui est potentiellement très important et au milieu duquel, évidemment, se développe une très riche biodiversité.
Et ces haies, elles prémunissent aussi les campagnes des inondations, des sécheresses et du vent, c'est ce qu'on lit dans l'enquête. Pourtant, chaque année, environ 23 500 km de haies continuent à disparaître en France. Vous le dites, ça peut surprendre parce que dans le discours, il y a beaucoup d'annonces, notamment de plantations d'arbres en France et puis donc aussi en région Bretagne. Peut-être que ces plantations d'arbres ne concernent pas vraiment les secteurs cultivés, que ça se passe à des endroits bien précis, mais qui ne concernent pas finalement ce qui se passe autour des champs, quoi.
Alors c'est assez épars au niveau français la façon dont c'est replanté. C'est vrai que la Bretagne a une politique de plantation très intense, c'est-à-dire que il y a je sais plus ce que c'est, mais c'est le programme Braise Bocage. Bref, il y a plusieurs milliers de kilomètres de haies qui ont été replantées en Bretagne depuis qu'existe le programme Braise Bocage depuis une grosse quinzaine d'années, mais qui ne compense pas tout à fait les destructions. Et surtout, une haie, en fait, la richesse d'une haie qui a des arbres qui ont plusieurs centaines d'années, on peut pas la rattraper comme ça avec une haie très jeune. Alors, j'ai retrouvé, en fait.
Ouais.
Donc, en Bretagne, il y a 6500 km de haies qui ont été plantées depuis 2007. Le problème, c'est qu'on ne sait pas exactement dans quel état elles sont, ces nouvelles haies, ce néo-bocage. On dit, nous, on a cherché des renseignements, notamment auprès de la région Bretagne, pour savoir quel était l'état de ces haies. A priori, il y a 30% qui ne durent pas. Donc, ça veut dire que le nouveau bocage qui est censé compenser le vieux bocage, il dure encore moins longtemps que le vieux bocage. Donc, ça paraît un peu compliqué, mais en tout cas, c'est ça que nous, on a pu remarquer. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la raison principale, en fait, de la chute continue du bocage, c'est la chute du nombre d'agriculteurs et d'agricultrices. Si on trace deux courbes entre le nombre de kilomètres de haies et le nombre d'agriculteurs et d'agricultrices, c'est deux courbes qui sont parallèles. Donc c'est vraiment un paysage qui est lié à une forte présence dans le milieu rural. Et c'est pour ça que le nombre de haies continue de chuter malgré toutes les politiques qu'on peut mettre en œuvre. Ce qu'ont dit les interlocuteurs que nous on a rencontrés, c'est que si on veut un paysage de bocage, il faut qu'il y ait du monde dans les campagnes, il faut qu'il y ait des paysans et des paysannes. Donc il vaudrait mieux mettre l'argent public dans l'installation plutôt que dans la plantation de haies.
Donc le résultat, c'est qu'en Bretagne, les millions d'euros investis par les collectivités locales pour des plantations n'empêchent pas les arrachages importants. Pour continuer un peu sur les explications là, à ce recul du bocage en Bretagne et ailleurs en France, il y a, vous le disiez au début, le fait que les haies représentent un obstacle au développement d'une agriculture intensive toujours plus mécanisée. Pour faire simple, il faut faire de la place pour des tracteurs toujours plus gros qui passent dans les champs, puis avec des exploitations qui s'agrandissent. Il y a quand même d'autres explications, le recul, la profession paysanne, moins d'élevage laitier. On découvre aussi qu'il y a le déploiement de la fibre qui peut paraître anecdotique, mais qui a un impact sur le bocage.
Oui, alors l'activité agricole et le besoin d'agrandir les parcelles, quand on les réunit, c'est la raison principale de la chute du nombre de kilomètres de haies. Mais effectivement, il n'y a pas que l'agriculture. Il y a l'urbanisation aussi, il y a beaucoup de nouveaux lotissements ou de zones artisanales qui sont construites régulièrement en Bretagne au détriment des haies. Et il y a, comme vous le dites, la fibre. On n'a pas pu déterminer le nombre de kilomètres de haies, mais il est certain, et de nombreux interlocuteurs nous l'ont confirmé, donc c'est des informations qui ont été largement recoupées. Le développement de la fibre, oui, ça entraîne une destruction non négligeable de linéaires de haies, notamment le long des routes.
Des chercheurs que vous avez interrogés qualifient la période de rupture paysagère avec un mouvement dans l'Ouest qui est plus rapide qu'ailleurs. C'est peut-être le moment où on parle des voix que vous portez dans cette enquête, des chercheurs donc, mais aussi des agriculteurs, agricultrices, des associations. Je vous laisse en dire un mot.
Alors effectivement, vous avez listé les différents interlocuteurs, interlocutrices qu'on a pu rencontrer. Donc il y a les agriculteurs, agricultrices, il y a certains élus, pas forcément très nombreux qu'on vient voulu parler, des associations de protection de l'environnement. Il y a aussi des associations qui s'occupent de planter des arbres, il y a des juristes. Et il y a ce qu'on appelle les techniciens bocage, qui sont les personnes qui ont en charge les plantations de nouvelles haies ou alors la surveillance des haies en place qu'on a le droit de couper, mais sous certaines conditions.
Ce que vous racontez un peu sur les coulisses de la réalisation de cette enquête, c'est que l'actualité, elle est un peu venue rencontrer votre travail journalistique, puisqu'il y a eu cette mobilisation du monde agricole, particulièrement au début de l'année, avec des voix qui s'étaient livrées à vous, mais qui finalement ont un peu fait marche arrière, en tout cas sur le fait de parler à visage et à nom découvert.
Alors c'est quelque chose qui a évolué au cours de l'enquête. C'est vrai que nous on a commencé l'enquête au début de l'automne et le sujet était assez discret au niveau des haies, puis ça a pris de l'ampleur et c'est devenu un peu un sujet de cristallisation des colères au fur et à mesure de la révolte sociale des paysans et paysannes au début de l'année 2024. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que normalement il n'y a pas le droit de couper les haies sauf sous certaines conditions. C'est un peu une spécialité de la protection française de l'environnement. Il y a toujours des dérogations et en l'occurrence, les règles qu'il faut respecter pour détruire une haie ne sont pas nécessairement remplies. Il s'agit de la déclarer, on doit compenser, c'est les deux raisons principales. Mais il y a beaucoup de techniciens et techniciennes qui nous ont dit que c'était compliqué parfois de faire respecter cette réglementation-là. Des élus ont pu nous le dire aussi. Et on sait bien que c'est particulièrement vrai en Bretagne, mais c'est sans doute vrai dans d'autres paysages ruraux français. Il y a beaucoup d'élus qui sont agriculteurs, il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont élus ou qui sont dans diverses instances représentatives des organisations agricole. Et donc tout ça fait que c'est pas forcément facile de se dénoncer soi-même ou de dénoncer les collègues ou de dénoncer les voisins ou de dire que la réglementation n'a pas été respectée. Plusieurs personnes nous ont dit effectivement que sur les haies, comme sur toutes les atteintes à l'environnement en Bretagne, il y a une vraie omerta et que certaines personnes se taisent, certaines personnes ont pu avoir des conséquences en fait au fait d'avoir parlé et que donc les techniciens bocage en particulier, qui sont sur le terrain, en prise directe avec les agriculteurs et agricultrices, ont pour plusieurs d'entre eux souhaité conserver leur anonymat.
Et justement, là, sur ces réglementations qui sont compliquées, vous avez observé des façons de pouvoir détruire des haies en le faisant de façon discrète, c'est-à-dire des destructions qui se font petit à petit, ou alors on coupe les arbres, les haies à ras, ce qui fait qu'elles ne repoussent pas. Il y a des façons de contourner en fait les réglementations actuelles.
Oui, alors la réglementation donc interdit la destruction des haies, mais elle n'interdit pas les linéaires, la destruction des linéaires, on appelle ça. Donc ça veut dire qu'une haie, il y a plusieurs strates. Il y a les grands arbres, il y a les strates arbustives avec des arbres plus petits. Et donc l'astuce, c'est de couper les arbustes qui sont entre les grands arbres. Et donc ça arrête d'être une haie, ça se transforme en linéaire. Et donc après, on peut couper les arbres les uns après les autres. Plusieurs témoins nous ont expliqué que cette technique était vraiment très répandue.
On découvre donc dans cette enquête dont je redonne le nom, Bocage, la fin d'un paysage, qui est à lire sur splante.org, on découvre qu'il y a un territoire symbolique de ce mouvement de recul du bocage, c'est celui du Trégor avec moins 159 km de haies sur une période de 20 ans. Le recul du bocage en Bretagne, ce n'est pas qu'une destruction, c'est aussi une histoire d'entretien.
Mais ce qu'il faut, il y a un de nos interlocuteurs qui racontait que finalement le bocage c'est un peu un glaçon qu'on met dans de l'eau chaude et qui fond petit à petit. Et dans le rapport qu'on cite, un rapport du gouvernement qui parle de ces 23 000 km de haies par an en France qui disparaissent, il y en a beaucoup, c'est à cause d'un manque d'entretien. Effectivement. C'est-à-dire que le bocage, c'est vraiment un paysage qui était entretenu, c'est-à-dire qu'une grande partie du temps de travail hivernal des agriculteurs et agricultrices, c'était d'entretenir et de tailler les haies. Et donc, quand ce travail-là, il ne peut plus être fait, ben les haies, elles s'abîment, elles ne sont pas régénérées. Et donc, petit à petit, elles disparaissent.
Et si l'entretien n'est pas fait, c'est parce qu'il coûte cher et qu'en fait, il est à la charge des agriculteurs aujourd'hui ?
Oui, c'est ce que certains d'entre eux regrettent, c'est que c'est finalement un paysage qui bénéficie à l'ensemble de la collectivité et qui sont seuls à entretenir. Donc ça coûte de l'argent et ça peut être pénible et très dangereux d'entretenir des arbres. Donc c'est aussi au moment où il y a eu le remembrement. Donc il y a plein de gens évidemment qui ont beaucoup regretté que ce paysage-là disparaisse et qui se sont battus pour qu'il ne soit pas... qui soit pas détruit, mais il y a aussi une partie des agriculteurs et agricultrices qui ont été soulagés de plus avoir ce travail-là à faire.
Le sujet est d'actualité, là toujours en ce mois de mars, puisque sur la question de l'entretien, la période vient d'être allongée mi-mars sur décision du ministère de l'Agriculture, période légale donc pour pouvoir élaguer les haies. Vous avez vu passer cette annonce-là qui a été critiquée notamment par des associations environnementalistes.
Bah, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est interdit de détruire les haies à cette période-là parce que, en fait, c'est la période où nichent beaucoup, où nichent tous les oiseaux. Et qu'on sait très bien que si on détruit les haies à ce moment-là, on prend le risque de décimer les populations d'oiseaux. Or, elles sont déjà très mal en point.
Donc la période là pour continuer à élaguer ces haies se prolonge jusqu'au 16 avril, un mois de plus. Et comme on vient de citer le ministère de l'Agriculture, on précise que les services de l'État justement n'ont pas souhaité répondre à vos questions pour cette enquête sur le bocage en Bretagne. Pourtant, vous dégagez des pistes d'amélioration. Il est question de simplification administrative, de mieux répertorier et protéger les haies et aussi d'avoir plus de contrôle et des sanctions qui soient vraiment, dissuasive pour les agriculteurs qui ne respecteraient pas la réglementation.
Mais effectivement, les sanctions sont pas du tout dissuasives puisque ça a été documenté par plusieurs enquêtes, notamment effectuées par le gouvernement, c'est-à-dire que ça peut coûter moins cher de payer une éventuelle amende que de replanter. Donc ça, effectivement, ça encourage pas beaucoup à bien entretenir le paysage du bocage. Mais encore une fois. Même une politique qui sanctionne mieux, même une politique où il y a plus de contrôle de ce qui se fait, ça ne pourra pas remplacer des installations massives d'agriculteurs et agricultrices qui sont les seuls à pouvoir garantir la pérennité de ce paysage.
Et avec un modèle agricole qui favorise l'installation de haies, on parle d'un changement de modèle.
On parle tout à fait d'un changement de modèle et ce qui est intéressant, c'est que nous, on a pu documenter en creux finalement le profil des personnes et des agriculteurs et agricultrices qui plantent des haies, parce qu'il y en a quand même, même s'ils sont minoritaires. C'est une étude qui a été faite à la demande de la région Bretagne, justement par deux sociologues, Catherine Darrow et Marie Toussaint. Et en fait, elle raconte bien que les personnes qui plantent des haies, ce sont des personnes qui sont, donc c'est plutôt des éleveurs, qui sont plutôt en bio. Donc ils font pâturer beaucoup leurs animaux et qui sont aussi dans des dynamiques de travail collectives, c'est-à-dire qu'il y a des échanges avec les voisins, ils sont dans des groupes de travail, etc. Parce que le bocage, c'est un paysage de culture collective, c'est pas quelque chose qui s'entretient chacun dans son coin.
Donc ça permet de comprendre un peu vers quel modèle agricole il faudrait tendre. Nolwenn Veller, vous êtes donc l'une des co-autrices de la dernière enquête de Splend, ce média d'investigation indépendant et breton, co-autrice puisque vous l'avez menée cette enquête avec Yann Malo-Kerbrat. Et puis on cite les prénoms de Faustine et Juliette, salariées de Splend, accompagnées d'Inès Léraud, fondatrice de ce média, pour aboutir là, à cette enquête qui est à découvrir en ligne sur splend.org. Et on ajoute en plus la participation de Denis Vanier qui a réalisé un travail de cartographie qui permet de rendre très lisible la situation et les illustrations très jolies de Yann Le Sachet. On précise toujours que l'accès libre aux enquêtes de Splend, c'est chouette, mais il faut pouvoir les financer ces enquêtes et donc les dons sont toujours les bienvenus de la part de lecteurs pour soutenir ce média local. Et c'est le moment où vous me dites s'il y a des choses à ajouter.
Peut-être dans les avantages, à un moment donné, rappeler que ça protège le bétail contre le soleil et que c'est pour ça que les éleveurs sont les premiers finalement à replanter des arbres parce qu'ils voient bien que, en cas, surtout maintenant avec les canicules, c'est le seul endroit où leurs bêtes vont l'été, quoi.
Donc on conseille aux auditeurs d'aller lire cette enquête qui est en 5 volets à retrouver sur splend.org et puis aussi sur des médias partenaires, des articles qui sont en accès libre et pour un média qui est sans actionnaire, ni publicité, ni subvention des collectivités locales qui a donc besoin de vous, auditeurs, pour exister. Je voulais peut-être juste terminer en renvoyant vers une des dernières émissions sur le front réalisée par France Télévisions, justement sur ses objectifs de plantation d'arbres, puisque le gouvernement a promis de planter 1 milliard d'arbres d'ici 2030. Et les équipes de sur le front ont réalisé que le rasage d'arbres sains était en fait encouragé pour ensuite replanter, mais avec des arbres qui ne survivaient pas forcément, puisque plantés en ligne et dans un système de monoculture. Voilà pour la recommandation de ressources pour aller plus loin sur ce sujet-là. Nolwenn Valère, merci beaucoup.
Merci.
Le propriétaire ne nous a pas répondu. Maintenant qu'il a fait raser son bout de forêt, il va toucher d'un côté les aides de l'État pour la replantation et de l'autre, l'argent de la vente du bois.
Zéphyr avec le morceau Sauve tes ailes sur Canal B. C'était le choix musical de Nolwenn Valère qu'on vient d'entendre dans une interview. Un morceau tiré d'un album du même nom qui est sorti en 2012 et donc c'est le résultat du travail d'un trio constitué de 3 jeunes femmes musiciennes et chanteuses qui s'est formé en 2000 du côté de Montpellier. Vous venez de les entendre sur Canal B dans l'Arène, l'émission d'information locale. On continue l'émission d'information du jour avec un reportage. Jeudi 4 avril à 20h, une rencontre est organisée à Carrefour 18 par Visa 35, 4 lettres pour Vigilance Initiative Syndicat Antifasciste. Ce collectif, il invite le journaliste et auteur Erwan Chartier Le Floch, c'est le rédacteur en chef de l'hebdomadaire Le Poer, installé dans les Côtes d'Armor, et c'est aussi l'auteur d'un livre, Calac de Bretagne ou les obsessions de l'extrême droite française. Ouvrage paru en 2023 chez Cobbrez, et qui revient sur cet épisode durant lequel la mobilisation de l'extrême droite avait abouti à l'abandon d'un projet d'accueil de réfugiés.
Donc VISA, c'est Vigilance Initiative Syndicale Antifasciste. Pierre Chapa, membre de l'Union Départementale CGT et membre de VISA. C'est une association nationale qui a une longue histoire, puisque ça fait presque 30 ans que c'est créé, qui regroupe des structures syndicales qui analysent le discours de l'extrême droite, qui veut informer les travailleuses et les travailleurs des mensonges de l'extrême droite et qui essaye de déconstruire leur discours. VISA 35 s'est créé il y a presque un an maintenant, parce qu'il y a une urgence que le mouvement syndical prenne en compte la montée de l'extrême droite en France et en Europe et même dans le monde et empêche l'extrême droite d'arriver au pouvoir en France, parce qu'on sait que l'extrême droite, c'est le recul des droits des travailleuses et des travailleurs, c'est une politique ultra répressive contre les immigrés et les travailleurs immigrés, c'est les attaques contre le droit des femmes et le droit des minorités, et donc c'est tout à fait le contraire de notre projet syndical. Donc dans VISA 35, il y a l'Union départementale CGT, Solidaire 35, l'AFSU 35, la CNT 35 et un syndicat FO qui est le syndicat SDAS-FO et d'autres syndicats, d'autres bases syndicales qui ont adhéré. Et on travaille justement à faire des soirées comme demain à Carrefour 18 où on a invité Erwan Chartier qui va nous parler de ce que l'extrême droite a fait à Calac et pourquoi c'est un danger et ce qu'elle a fait contre la liberté d'informer.
Combien de personnes ça représente vraiment activement dans VISA 35 ?
Si on prend les structures, c'est plusieurs milliers de personnes. Les gens qui animent VISA 35, c'est des quelques dizaines de personnes, on va dire. Mais le plus important, c'est qu'on porte dans les syndicats et surtout auprès des travailleuses et des travailleurs le discours de déconstruire le discours d'extrême droite et d'expliquer pourquoi c'est un danger. Aujourd'hui, on a, contrairement à ce qu'on dit, le premier parti des ouvriers et des ouvrières, ce n'est pas le Front National, c'est l'abstention. Mais après l'abstention, c'est le Front National. Et donc, les gens, nous, on pense qu'ils se trompent de colère. Au lieu de s'attaquer aux 100 milliards de bénéfices du CAC 40, qui est juste une spoliation de notre travail, hein, et cette accumulation de richesses incroyable, on montre du doigt l'immigré, le musulman. Il faut porter dans le monde du travail cette voix antiraciste, antifasciste, pour montrer que l'extrême droite, en fait, elle fera pareil en termes de libéralisme, voire pire, et qu'en termes de liberté, là, on sait, on a déjà testé l'extrême droite, que ce soit dans l'histoire en France ou en Bretagne ou ailleurs, il n'y a qu'à voir la Hongrie de Orban. Qui a envie de vivre dans la Hongrie de Orban? Qui a envie de vivre sous Bolsonaro? En tout cas, pas nous, parce que c'est contraire à notre vision de la société.
Il s'est passé quoi en un an? Vous avez participé à des mobilisations sociales. C'est peut-être vraiment le premier temps fort ouvert au public, là?
Là, c'est le premier vraiment temps fort. Mathilde, technicienne de maintenance et syndicaliste à Solidaire. On organise également des formations à destination des travailleuses et des travailleurs pour réexpliquer, en fait, pourquoi on dit que l'extrême droite est l'ennemi des travailleuses et des travailleurs. Donc ça permet de reprendre historiquement quels ont été les choix, les idées, mais également les mises en pratique concrètes de l'extrême droite et pourquoi elles ont toujours abîmé et empiré les conditions du quotidien, les conditions de travail et également les relations économiques.
On essaye aussi de dénoncer les faux discours de l'extrême droite. On regarde beaucoup ce que font les 91 élus du Rassemblement National à l'Assemblée nationale. À chaque fois qu'il y a une proposition d'augmenter le SMIC, à chaque fois, le Front National s'est opposé à l'augmentation du SMIC. L'arnaque totale, ça a été sur la retraite. Il y a eu un long mouvement intersyndical sur les retraites. et que Marine Le Pen puisse faire croire à une fraction de la population qu'elle est pour la retraite à 60 ans, c'est l'arnaque du siècle. Si on lit le programme du Front National, ils ne sont absolument pas pour la retraite à 60 ans. D'ailleurs, ils ne se sont pas opposés plus que ça à l'Assemblée nationale, à la réforme des retraites qui a mis des millions de travailleurs et travailleuses dans la rue et dont on continue à demander l'abrogation, contrairement au Front National.
On imagine que le grand défi, c'est d'aller chercher des personnes qui, peut-être justement, soit sont abstentionnistes, soit sont un peu séduites par le programme du Rassemblement National. En un an, quel est votre sentiment quand vous présentez vos idées à des gens qui sont donc extérieurs à Visa et aux syndicats qu'on y trouve ? Est-ce que ça prend ou est-ce que ça demande du temps ?
Il y a un vrai travail, en fait, pour repartir de la réalité, encore une fois, des actions, notamment de ce qui se passe au niveau des collectivités territoriales dans lesquelles le RN peuvent être au pouvoir. Souvent, la discussion est ouverte parce que la plupart, en tout cas autour de moi, des travailleuses et travailleurs que je vais croiser vont se tourner vers l'extrême droite par un vote de dépit. Mais... Il reste une petite voix au fond d'eux et d'elles qui leur rappelle que c'est pas tout à fait la meilleure des solutions, mais bon. Et du coup, de prendre le temps, c'est surtout une question de temps, de discours à la machine à café, d'expliquer pourquoi une situation simple du type « ben oui, mais de toute façon, toujours, moi, à chaque fois que je vois des Arabes, eh ben, je m'engueule avec elles et avec eux ». Tu dis oui, mais en fait, tu les croises quand ? Tu les croises dans les supermarchés. Et tout le monde s'engueule, tout le monde est stressé au supermarché. Et dans les bouchons. Tout le monde est stressé dans les bouchons. Et à partir du moment où on est dans une vie ségrégée, eh bien, les rencontres des uns et des autres ne peuvent pas se faire. Et le fait de pouvoir déconstruire calmement ces idées permet de repartir sur d'autres bases et de réexpliquer des choses qui sont cachés. C'est pas parce que nos collègues et elles sont bêtes, pas du tout. C'est simplement parce que l'extrême droite fournit un effort énorme pour cacher la réalité de leurs idées.
Nous, on pense que c'est les luttes sociales qui unifient les travailleurs selon leur genre, selon leur origine, etc. Et on le voit bien, quand il y a un mouvement social comme le mouvement des retraites l'année dernière, tout d'un coup, l'extrême droite disparaît du discours. Par contre, dès que la question sociale n'est plus au centre des questions, eh ben, tout de suite reviennent ce que certains appellent les passions tristes, ou en tout cas tous les discours racistes, de haine, de rejet. C'est pour ça que nous, on pense qu'en tant que syndicalistes, les deux sont nécessaires. Et en même temps affirmer la nécessité de la lutte sociale, l'augmentation du SMIC, de la retraite à 60 ans, etc. Et en même temps de dire aux gens qui seraient attirés par le discours du Front National et de l'extrême droite, de dire que c'est un discours qui divise alors qu'on a exactement les mêmes intérêts que le travailleur immigré dans nos entreprises, par exemple.
À Solidaire, on va insister sur un discours de transformation sociale en réexpliquant pourquoi, en fait, tout dépend d'un système plus grand et que c'est à cette hauteur-là que les conséquences négatives sont créées et qu'effectivement, pour pouvoir se battre contre ce système, seule l'union pourra faire la force. Et c'est ce discours qu'on va porter d'explication, encore une fois, parce qu'aussi, les conditions de travail et le temps de travail et le temps passé dans les déplacements fait que la hauteur est difficile à prendre. Donc on a la chance de se réunir déjà en tant que syndiqués ensemble pour se former collectivement. Et une fois qu'on se forme collectivement, on va vers les autres pour expliquer ce que nous on a compris, mais aussi débattre. Et c'est par ces échanges qu'on peut progresser.
Aaron Chartier, je suis rédacteur en chef et directeur de publication d'un hebdomadaire local, le POER, donc en centre-ouest Bretagne. Et c'est à ce titre-là que j'ai été confronté à ce qui s'est passé à Callac et dont j'ai voulu rendre compte, dont je parlerai dans cette conférence, puisque j'en suis à une plainte pour diffamation et injure publique envers un ancien cadre de Reconquête et un site de la fachosphère, donc Résistance républicaine, et parce que j'ai 4 menaces de mort et d'attentats au compteur. Donc j'ai voulu raconter ça et comment ça s'est passé, surtout comment un mécanisme s'est mis en place à Callac au prétexte d'un centre d'accueil de réfugiés avec un fonds de dotation, donc le projet Horizon. Comment l'ultra et l'extrême droite se sont invités dans le débat, ont récupéré la chose, ont mis un climat délétère dans la commune, ont fait pression sur les élus, ont menacé des élus et des journalistes. Tout ça pour obtenir finalement une victoire symbolique et pour tenter de reproduire la chose ailleurs pour exister, puisque là on est plutôt dans la mouvance Reconquête qui tente d'exister par rapport au Rassemblement National. Et en même temps des gens qui sont un peu les idiots utiles de l'extrême droite, puisque le RN ne se cache même pas de capitaliser après là-dessus sans avoir rien fait. D'ailleurs.
La mobilisation contre ce projet d'accueil de personnes réfugiées donc qui viennent majoritairement de pays en guerre. La mobilisation de l'extrême droite, c'était de l'automne 2022 jusqu'à tout début 2023, avec donc à la fin la décision d'abandonner ce projet. Il faut peut-être redire un peu quelle était la couverture de votre hebdomadaire sur ces événements-là, puisqu'on vous a reproché de faire la promotion de ce projet d'accueil.
Non, moi, je vous raconte dans le bouquin. D'ailleurs, on était un peu sceptiques avec le premier communiqué de presse qu'on avait reçu sur ce projet. Non, on a fait un truc fou en octobre, complètement foufou pour des journalistes. On est allé interviewer le maire de Callac, on est allé faire le marché de Callac. Moi, j'ai interviewé la directrice du fonds de dotation qui a expliqué son projet et qui a notamment expliqué que ça commencerait par une famille de réfugiés et non pas 700 réfugiés musulmans noirs qui allaient arriver dans la commune, comme le disait l'ultra-droite. Donc voilà, on a juste fait ça et c'est pour ça qu'on a été attaqué.
Rapidement ?
En fait, c'est arrivé de manière anonyme par la poste début novembre, un peu après. Et donc là, on a décidé de porter plainte pour diffamation injure, notamment parce qu'on était traité de collabo, et pour moi, c'est une insulte. Et le lendemain de l'assignation en justice, les menaces de mort ont commencé, donc avec des messages qui ne laissaient pas de doute sur la provenance des menaces, puisque j'avais on va te crever, te jeter dans une fosse avec tes copains négros. Ça désignait clairement enfin l'extrême droite, quoi. Puis on a eu menace à la bombe, d'autres messages tout aussi outranciers, quoi.
Est-ce que c'était la première fois que sur un traitement médiatique vous retrouvez à être la victime d'un tel acharnement, quoi, de l'extrême droite?
Oui. Alors après, moi, je travaille en Centre-Ouest-Bretagne, donc il y a un territoire de caractère, on va dire. Ça arrive que les élus soient pas contents, qu'ils boudent, qu'il y ait des mots. Mais bon, en général, ça s'arrange. Et puis, il y avait rien de tel. Là, on était dans un autre champ, quoi. On est dans le champ de l'insulte, de la menace, de la pression, avec des gens très marginaux, en plus, sur le terrain, mais qui ne peuvent exister que comme ça.
Alors on imagine évidemment l'impact psychologique. Est-ce que ça a eu des conséquences justement sur la façon de continuer à parler de cette mobilisation et du projet de centre d'accueil à Callac ?
Non, pas forcément. En fait, au contraire, on a recroché dedans, sachant que nous, on est sur le terrain, contrairement à la plupart des gens qui nous insultaient, qu'on connaît Callac, qu'on connaît les environs, qu'on avait toujours des bonnes relations avec les élus. Donc, au contraire, on a continué à faire notre travail, parce que notre problème, c'était pas d'être pour ou contre l'immigration ou ce projet. Notre problème, c'est de rendre compte. Et je tiens d'ailleurs à dire qu'on avait rendu compte de la création d'un comité d'opposants, comme c'était normal, qui exposait ses arguments, quoi.
Ce qui est particulier, c'est, il faut redire, il y avait peut-être une opposition un peu locale. Beaucoup de militants sont venus, on va dire, hors de la région, poussés par le parti Reconquête.
Ouais, un de mes souvenirs, c'est en arrivant à la première manif du 17 septembre 2022, c'est de voir des gens qui distribuaient des drapeaux bretons, quoi, pour faire couleur locale. Et on voyait bien aux plaques d'immatriculation ou aux gens qu'on n'avait pas affaire à des locaux. Hein. C'était des gens qui venaient d'assez loin parfois, quoi. Parce qu'on avait même des Vendéens en costume du 18e.
Là, on a donc cet ouvrage là sous les yeux qui sera au cœur de la rencontre qu'on annonce, qui a lieu jeudi 4 avril à 20h à Carrefour 18, donc ici à Rennes. Son titre, Callac de Bretagne ou les obsessions de l'extrême droite française, est paru en 2023. Ce qui est intéressant, c'est que votre livre, qui est un témoignage, devient un outil. Là, vous êtes dans l'idée d'aller prolonger en fait votre travail d'écriture auprès du grand public.
Oui, moi j'avais dans l'idée de pas laisser le narratif à l'extrême droite sur cette affaire, quoi, et de raconter nous ce qu'on avait vécu et comment on l'avait vécu. Et après, je vois que ça intéresse pas mal et que les invitations se multiplient, parce que je pense que Callac a été un électrochoc aussi. C'est la première fois que l'extrême droite obtenait une victoire symbolique en Bretagne. Et je fais une conférence à Saint-Nazaire, échanger avec les gens de Saint-Brévin, et on voit qu'on a vécu la même chose avec les mêmes sites d'extrême droite et les mêmes groupuscules qui s'en sont pris à eux, quoi. En tout cas, moi, je suis pas militant, je suis juste un journaliste qui rencontre, mais c'est mon seul militantisme, parce que il y a une affaire démocratique, la presse régionale et la presse locale a son rôle à jouer, on est les chiens de garde de la démocratie. Hein. Et voilà, quoi. Et donc, y a un vrai problème, et donc c'est tout à fait normal d'en parler. Voilà.
Dernière question, c'est peut-être aussi une façon d'anticiper de nouveaux épisodes, s'il est question de décrypter un peu la méthode Callac. On sait que du côté de Dol de Bretagne, il y a aussi eu un projet qui était vraiment différent, qui était trop avancé pour que la mobilisation puisse l'empêcher, mais un projet donc d'accueil de personnes exilées, et on a revu à nouveau une mobilisation de l'extrême droite. Il y a quand même peut-être d'autres épisodes qui vont survenir de ce genre, quoi.
C'est sûr, parce que c'est une manière pour eux d'exister. Ce qui est intéressant à Dol, mais aussi à Saint-Brévin et Callac, c'est que la droite démocratique était opposée à l'extrême droite. Et ça les embête beaucoup, on le voit bien. Et on voit aussi que à Dol, il n'y avait qu'une quarantaine de militants d'extrême droite, finalement, contre 250 personnes. Et on voit que certains anticorps dans la société bretonne recommencent à faire effet et que certaines digues se remontent.
Ce qui est rassurant.
Ce qui est très rassurant, en effet.
Je crois que sur Dol, ce qui est à noter, effectivement, c'est qu'il y a eu une réaction en face. C'est-à-dire qu'il est hors de question qu'aujourd'hui, sur le territoire de l'Ille-et-Vilaine, Callac ou Saint-Brévin se reproduisent. Et je crois qu'on peut dire que le mouvement syndical, parce qu'il y a beaucoup de syndicalistes à la manifestation, tout le monde l'a noté d'ailleurs, est extrêmement important pour reformer ces digues et faire qu'il y ait un front uni pour que le pire n'arrive pas.
Condition par Lovatarax. C'était une nouveauté musicale sélectionnée par Yann, notre programmateur musical ici à la radio. Et ce titre, vous le retrouverez sur un album Sophomore. Ça sort le 5 avril, dans quelques jours, sur le label Cold Transmission Music. Ce sera le deuxième disque pour ce duo de Cold Wave Minimal français dont vous venez d'entendre un extrait sur Canal B dans l'Arène, l'émission d'information locale. Un programme à écouter du lundi au vendredi sur le 94.0, mais aussi en ligne sur canalb.fr. Et je cherche aussi à mettre en lumière cette émission à travers une newsletter, le courrier de l'Arène, que j'envoie aux abonnés chaque vendredi. Un joli document format A4 dans lequel je reviens sur les sujets qu'on a abordés tout au long de la semaine dans l'émission. Allez, avant de se quitter, la recommandation du jour. La recommandation du jour, ce sont des petits conseils d'événements à vivre près de chez vous, parfois aussi de quoi nourrir vos envies de lecture, de podcast ou de documentaire. Aujourd'hui, eh ben justement, conseil de documentaire, Sainte-Soline, autopsie d'un carnage. C'est un film important qui a été réalisé par Clarisse Feltin et Maïlys Kider et coproduit par Off Investigation et le bien connu Reporter. En 1h10, les réalisatrices rendent la parole aux blessés et aux témoins de la manifestation du 25 mars 2023. Une mobilisation alors qui était interdite par la préfecture, initiée par plusieurs associations et collectifs. On retrouvait Non Oméga Bassine, la Confédération Paysanne, les Soulèvements de la Terre. Selon les organisateurs, près de 20 000 manifestants ont convergé vers le chantier d'une bassine. Vous savez, ces giga-retenues d'eau critiquées pour leurs méfaits environnementaux. À proximité, puisque les manifestants ont été empêchés d'accéder au lieu à travers un dispositif policier énorme. 3200 gendarmes étaient présents sur place, ils ont tiré plus de 5000 munitions en l'espace de quelques heures, des grenades lacrymogènes, des grenades assourdissantes, des balles de LBD-40 aussi, un maintien de l'ordre critiqué entre autres par la Ligue des droits de l'homme et qui a fait en tout 240 blessés. Les images capturées par plusieurs journalistes indépendants ainsi que des vues par drone permettent de faire émerger un autre discours et une autre compréhension de l'événement, autre que la parole officielle du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Et puis ça permet aussi d'entendre les mots de plusieurs blessés. Parmi eux, il y a Serge qui a failli laisser sa vie avec, on le rappelle, un empêchement de l'accès des secours au lieu de ce carnage. Le film, il est en accès libre sur YouTube, je redonne son nom, Sainte-Soline, autopsie d'un carnage. L'accès est libre, mais n'hésitez pas à aller soutenir les équipes de production en allant faire un don sur donorbox.org. Et on précise, pour terminer, que les Soulèvements de la Terre, ils ont leur comité rennais, ici dans la région, comité qui annonce une saison 7 d'action avec un temps fort de mobilisation, toujours contre les méga-bassines, qui est prévu au mois de juillet.
Le droit à manifester, c'est un droit constitutionnel.
J'ai l'impression que à cette détermination, ils n'avaient plus que la force à la fin à opposer, quoi.
C'est comme un parent qui bat ses enfants, quoi, en fait. Il pense que c'est ce qu'il faut faire, mais c'est pas ça qu'il faut faire, en fait.
C'est pas une somme de 100 policiers qui font des conneries. C'est réfléchi.
Il y avait une volonté d'écraser, de faire en sorte qu'on ne revienne plus.
L'Arène, c'est terminé. Une émission d'information locale à écouter du lundi au vendredi à 17h sur Canal B et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour suivre l'émission, pensez à vous abonner à la newsletter, le courrier de l'Arène, le détail et les podcasts sont à retrouver sur canalb.fr. Allez, je vous dis à bientôt.